Je vous invite à trouver Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 2. Chapitre 2, verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 13. Nous lisons les paroles de Dieu dans la présence de celui qui les a dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit Jérémie, vers l'année 615. Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, donc à la sortie d'Égypte, dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel, ou était saint à l'Éternel, ou appartenait en propre à l'Éternel, était sa fiancée. À lui. Il était les prémices de son revenu ou de sa moisson, de son récolte. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux. Oracle de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi, quel défaut ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Et pour se rallier à ce qui est vain, c'est une allusion aux faux dieux, aux fausses croyances, et devenir eux-mêmes vanité ou futilité. Ils n'ont pas dit « Où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte ?» qui nous a conduits dans le désert, dans une terre de steppes et de fosses, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre pas où personne ne passe et où n'habite aucun être humain. Je vous ai fait venir dans un pays de vergers pour que vous en mangez le fruit succulent, mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur, donc en croyant aux faux dieux. Et vous avez fait de mon héritage une horreur. Un lieu d'adoration d'idole est appelé abomination ou horreur dans l'Ancien Testament. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les détenteurs de la loi, les théologiens, ne m'ont pas connu. Les bergers, les sacrificateurs, les pasteurs, m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal, le faux dieu Baal qui a tellement causé de problèmes à Israël. Et se sont ralliés à ceux qui ne sont d'aucune aide. En parlant de ces faux dieux et de, sans doute, d'Égypte et d'Assyrie, les sources d'aide et de secours que Israël a cherché en abandonnant Dieu comme le secours. C'est pourquoi j'entre encore en procès avec vous, oracle de l'Éternel. J'entre en procès avec les fils de vos fils. Passez aux îles de Kittim, probablement des îles de Méditerranée, et regardez, envoyez des messagers à Kedar, en Égypte. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Allez voir où vous voulez. Pour voir si vous avez jamais vu une telle chose. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, croit qu'ils ne soient pas des dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'ont d'aucune aide. Cieux, soyez désolés à cause de cela, frémissez et desséchez-vous, oracle de l'Éternel. Car mon peuple a doublement mal agi, un double péché. Premièrement, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, deuxième péché, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je vais, avant de commencer ce message, vous lire juste quelques versets dans le livre de Colossiens, chapitre 2, qui est une forme un peu néo-testamentaire de ce que je viens de lire dans Jérémie. Source d'eau vive et citerne crevassée. Paul dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude d'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et vous buvez pour une question de fête, de nouvelle lune, de sabbat, c'est-à-dire une religion qui met sa confiance non pas en Christ, mais dans des rites. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, la substance est en Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, citerne crevassée, ne vous conteste à son gré le prix de la course, un tel homme s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles au lieu de s'attacher au chef, c'est-à-dire Christ, par qui tout le corps grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Comment est-ce que Dieu ramène les hommes et les femmes à lui-même? Aucune question plus importante et plus grande et plus pertinente, qui que vous soyez, non chrétien ou chrétien. Parce que si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous êtes loin du vrai Dieu. Vous êtes loin de Dieu. Et vous avez besoin de savoir comment Dieu vous ramène à lui. Et les chrétiens s'éloignent de Dieu. Ils ne quittent pas Dieu. Mais ils s'éloignent parfois de Dieu. Tous. Dans une petite mesure, un déclin spirituel, s'éloigner dans son cœur du Seigneur, ou parfois comme Jonas dans l'Ancien Testament, qui s'enfuit de Dieu, nous voyons d'autres personnes qui font une vraie temps de rétrogradation, de s'éloigner vraiment de manière conséquente. Et vous avez besoin de savoir comment est-ce que Dieu ramène son peuple à lui. Vous allez me dire, mais pourquoi tu prends Jérémie chapitre 2? Parce que c'est une situation vraiment tellement différente. Et Israël, la plupart d'entre eux n'étaient même pas de vrais croyants. Ça, je le sais aussi, comme vous. Mais la Bible nous dit... dans 1 Corinthiens 10, ceci, pardon, 2 Corinthiens 10, en tout cas, je ne vais pas le trouver maintenant, mais ces choses donc, de l'Ancien Testament ont été écrites pour nous servir d'exemple, d'accord, à nous, sur qui sont venus les derniers temps. Et donc, nous pouvons savoir que Dieu a écrit Jérémie chapitre 2, non pas principalement pour les Juifs, bien que ce soit l'Ancien Testament, mais principalement pour nous, qui sommes dans l'ère chrétienne. C'est étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est ce que la Bible enseigne. C'est logique parce que la plupart des croyants dans l'histoire, c'est pas le petit pays d'Israël. C'est cette église multinationale immense avec des millions, des centaines de millions de gens à travers 2000 ans, n'est-ce pas? Et c'est logique que ce soit écrit, oui, pour Israël avant que Jésus ne vienne, mais principalement pour nous. D'accord. Introduction. Si je devais définir le péché, je pouvais le faire en disant simplement que le péché, c'est quoi? C'est aller loin de Dieu. Tout simplement. Nous lisons dans le chapitre 2, si vous pouvez garder le texte devant les yeux. Nous lisons dans le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi ?» C'est ça le péché. S'éloigner de moi. Je crois que le terme doit être plus fort parce que ça signifie aller loin de moi. Alors, si nous allons en Europe aujourd'hui et nous interrogeons la plupart des gens au sujet de Dieu, nous découvrons qu'ils sont loin, loin de Dieu. Et en fait, il n'y a rien de quoi ils sont plus loin dans leur pensée, dans leur préoccupation, dans leur intérêt du cœur que du vrai Dieu. Loin, s'éloigner du vrai Dieu qui s'est révélé dans l'Évangile. Et nous nous éloignons de lui. Lorsqu'il n'a plus de place dans nos préoccupations, dans ce qui guide notre vie, dans notre espérance, dans ce vers quoi nous voulons arriver, Dieu ne figure pas là-dedans. Alors nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. Et c'est vraiment, chers amis, la tragédie des tragédies. La plus grande tragédie, c'est pas d'être né sans bras, comme un homme que j'ai vu cette semaine dans une brochure de livre chrétien. Cet homme avec de grands, magnifiques souris heureux. Et donc, un livre à son sujet, enfin, je crois que c'est lui qui a dû écrire, c'est son témoignage, et il parle un peu partout en France en ce moment de sa joie d'être chrétien, alors qu'il n'a pas de bras. C'est pas la plus grande tragédie, la guerre ou quoi. On peut supporter tout. Si on n'est pas loin de celui qui nous a fait et qui est la source d'eau vive. Mais c'est ça le péché. Maintenant, nous voulons donc comment savoir nous pouvons ne pas aller loin ou rester loin de Dieu. Comment est-ce que Dieu ramène Israël ici lorsqu'ils sont loin? Première chose, il pose une première question. Il va en poser plus qu'une, mais c'est important de savoir que Dieu vous interroge. Dieu ne fait pas que vous parler. Il vous pose aussi des questions. Parce que personne n'est jamais revenu à Dieu sans commencer à réfléchir. Et qu'est-ce qui nous fait réfléchir? Une question. Un autre sujet que nous devons répondre. Qui nous oblige à nous regarder, où nous en sommes. Donc, première question, nous le voyons. Dans le verset 2, « Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert dans une terre stérile. Israël était consacré à l'Éternel. » Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondé sur eux Oracle de l'Éternel. Peut-être j'ai mal fait de dire que c'est une question, mais vous allez voir qu'il est en train de poser une série de questions. Il y a une question derrière cette affirmation. Et je vais le mettre comme ceci, et c'est le premier point. Dieu nous ramène en nous disant, je me souviens. Et toi, est-ce que tu te souviens? Je me souviens, dit-il à Israël, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée quand tu me suivais au désert. Il parle d'il y a quelques siècles, quand il a racheté de bras forts, quand il a racheté Israël d'Égypte, et que le peuple a cru en Égypte, a peint les linteaux de sang d'agneau, s'est dirigé vers la mer Rouge. Et a vu le Seigneur faire son œuvre. Il parle du moment où, dans le désert, maintenant délivré, le peuple promet à Sinaï, nous ferons tout ce que tu dis. Et le peuple commence à croire et à s'émerveiller de Dieu, de sa bonté, de ses prodiges, de la manière dont il les a choisis et choyés. Et donc, le Seigneur dit, je me rappelle de cette affection, de cette confiance, de cette proximité, de ce désir que vous aviez pour moi. Et il dit aussi, je me souviens de cette attitude protecteur, jaloux que j'avais pour vous. Vous avez vu, Israël était saint à l'Éternel. Les prémices de son revenu, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, le malheur fondé sur eux. Je prenais soin de toi d'une manière tout particulière. Je me souviens de tout ça. Et sous-entendu, est-ce que tu te souviens? Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu veut vous interroger comme ça pour vous ramener à lui? D'abord, pour vous parler de son amour. Pensez à un homme dont la femme l'a quitté. La femme l'a quitté pour aucune bonne raison. D'accord? Et cet homme, il l'aime toujours. Il l'aime toujours. Et qu'est-ce qu'il peut lui dire? Souviens-toi quand je t'aimais tant. Et toi aussi, tu m'aimais. Et pourquoi est-ce qu'il va parler à cette femme comme ça? Et vous savez facilement, il veut réveiller en elle quelque chose. Et lui dire, tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Et ce qui est étonnant, et ne pensez pas au mariage, à vos relations humaines. Ne faites pas ça. Nous sommes tellement mauvais et égoïstes que nous prenons la parole de Dieu où Dieu veut nous enseigner au sujet de lui et nous voulons toujours penser à nous-mêmes et nos relations brisées et tout ça. Ne faites pas ça. Parce que Dieu parle de quelque chose que vous ne faites pas et vous ne pouvez pas faire. Je vous garantis que si jamais vous avez eu une relation vraiment brisée, mais vraiment brisée, où la personne est maintenant loin, loin, loin et est devenue très... Ne fait aucun cas de vous maintenant, comme c'est le cas pour Israël envers Dieu, vous n'allez pas, comme Dieu dit avec amour, souviens-toi. Je veux réveiller ta conscience de mon amour pour toi et ce que nous avions. D'accord? Moi, je vous parle de comment Dieu est avec les hommes. Je ne vous parle pas de comment vous devez être. Il y a peut-être même des situations où vous devez laisser tomber. Ok? Mais moi, je vous parle de vous et Dieu. Et Dieu, lorsque vous êtes loin, la première chose qu'il veut faire, qu'il veut vous dire, c'est je me souviens d'autrefois. C'est-à-dire, écoutez bien, je ne te regarde pas simplement en termes de ton éloignement actuel. Je te regarde en termes de ce que tu étais pour moi. Ton identité pour moi n'est pas gros pécheur loin. Ton identité, ma fiancée d'autrefois. Celle qui m'aimait.
Ça, c'est formidable, n'est-ce pas? C'est assez incroyable. Que Dieu puisse parler après des siècles d'éloignement d'Israël, où Israël est allé se prostituer auprès de tous les dieux de la région, et Dieu dit, je pense plutôt à toi à ce moment-là. C'est merveilleux. Donc c'est pour nous montrer que son amour est tellement fort qu'il refuse de nous voir en termes uniquement de notre péché actuel. Il ne le fera pas. Mais deuxièmement, c'est parce que vous savez que le péché, je pense que vous savez que le péché nous rend oublieux de Dieu dans notre présent. Alors, allez penser à quelqu'un, trouver quelqu'un qui est vraiment esclave du péché, une chose est sûre, qu'il ne pense pas à Dieu. Il est oublieux par rapport à Dieu. Le fait que Dieu est là, il peut l'aider. Mais est-ce que vous saviez que le péché aussi nous fait oublier de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé, de ce que, comment Dieu t'a touché? N'est-ce pas? Combien de fois tu as complètement oublié, surtout quand tu étais loin, que ce n'était pas toujours comme ça? Et combien de le diable et ton péché ont voulu mettre en oubli complètement ce que Dieu ne veut pas que tu oublies? Il veut que tu te souviennes. Il veut faire revenir à ton souvenir que ça n'a pas toujours été comme ça pour toi. Tu n'as pas toujours eu une vie chrétienne, si tu es chrétien, un peu distant avec Dieu. Non, ça n'a pas toujours été comme ça, si tu es vrai chrétien. Et il dit, souviens-toi, parce que je me souviens. Mais ça arrive même en non-chrétien. Je me souviens dans un camp d'été, il y a bien des années, dans la Haute-Loire, une dame est venue me parler après un message, une dame âgée, à la retraite. Elle n'était pas chrétienne, elle n'avait jamais vraiment fréquenté une église, mais elle était venue avec son fils, un homme déjà de mon âge, à l'époque, avec sa famille. Et cette dame est venue demander une conversation en privé avec moi. J'ai vu qu'elle était visiblement touchée et elle m'a dit, David, quand j'étais petite, il y a 50 ans avant, quand j'étais petite, je croyais qu'il y avait un Dieu qui était glorieux et merveilleux et bon comme ce que vous montrez dans ce camp à partir de ces textes bibliques. Mais, au fil des années, j'ai remplacé ça par des idées qui sont complètement petites, mesquines et indignes. Elle n'était pas chrétienne, mais Dieu a réveillé son souvenir que même pour elle, il l'avait touché. Il avait fait venir dans sa pensée une image qui était glorieuse de lui pour qu'elle le cherche. Je ne sais pas si vous vous souvenez des bonnes choses que Dieu a fait dans votre vie. Mais en tout cas, dans le livre d'Apocalypse, vous savez que lorsque Dieu dit à l'église d'Éphèse que cette église s'est éloignée de lui, et risque de faire enlever son chandelier, c'est-à-dire l'église va disparaître. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et tu as quitté ton premier amour. Reviens à ce premier amour. C'est exactement l'enseignement de Jérémie 2. J'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de ces moments. Qu'est-ce que c'était que d'être proche du Seigneur, d'avoir le cœur ravi, émerveillé de son amour et de sa grâce. Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose que Dieu fait quand il veut nous ramener à lui, c'est qu'il nous pose, voilà, une question explicite que nous voyons dans le verset 4 et 5. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour se rallier à ce qui est vain, donc les faux dieux. Ou quel défaut est-ce que vous avez trouvé en moi? Pourquoi cette question? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire face à cette question si vous êtes chrétien ou non chrétien et loin de Dieu? Simplement pas à cause d'une chose très logique. Lorsque deux personnes normales sont proches, et puis à un moment donné, ils ne sont plus proches, c'est parce que normalement, l'une de ces deux personnes, au moins, peut-être les deux, est en tort, fautif. Quel défaut as-tu trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Tu t'éloignes pas d'une personne qui est toute bonté, qui est toute perfection envers toi. Ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a parlé récemment d'une personne qui, un collègue qui, dont la copine est en train de le quitter, et il a expliqué la raison. Il était tout préoccupé par cela. Parce que j'ai été déprimé depuis un certain temps, depuis des mois, et elle me dit que quand je suis déprimé, je suis très égoïste et je ne m'occupe pas d'elle. Donc au moins, cette fille peut répondre, quel défaut? Elle explique, quel défaut? Elle explique, je te quitte parce qu'il y a un défaut en toi que j'ai trouvé qui me repousse. Et Dieu dit, allez, vous, et moi je vous pose la question, mais réellement vous, quel défaut avez-vous trouvé dans Dieu et dans le Rédempteur Jésus-Christ pour vous éloigner de lui? La tentation maîtresse de Satan se trouve là. Il veut vous amener toujours, toujours, toujours à être frustré de Dieu. Parce que si jamais il peut semer dans ton cœur une attitude de frustration ou d'accusation envers Dieu, c'est tellement subtil que vous ne savez même pas que vous êtes en train de vous en vouloir à Dieu. N'est-ce pas? Parce que telle chose est arrivée dans votre vie ou telle chose n'est pas arrivée que vous vouliez, n'est-ce pas? Et vous commencez à attribuer un défaut au caractère de Dieu. Vous vous rappelez que dans le livre de Job, on nous dit que les enfants de Job qui étaient grands faisaient des fêtes chez chacun des enfants, hein, à tour de rôle. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils et ses filles. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Pourquoi? Car Job disait, peut-être mes fils et mes filles ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Peut-être dans leur cœur, juste dans leur cœur, ils ont maudit Dieu, c'est-à-dire ils ont trouvé quelque chose de maudissable. Ils ont trouvé quelques défauts dans le Dieu de l'univers, dans le Dieu qui a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Nous sommes tellement lents que souvent, il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont en train de vivre presque toute leur vie chrétienne avec une attitude comme ça.
ils ne savent pas. C'est comme la femme que nous avons connue à un moment donné dans notre vie qui jetait des casseroles à son mari dans la cuisine. Et un jour, ma femme lui a dit, tu as un problème de colère. Quoi? Elle était franchement stupéfaite. Elle ne pensait pas pour un moment qu'elle avait un problème de colère. Mais nous pouvons avoir une attitude d'accusation envers Dieu, de trouver défaut en Dieu, et donc c'est pour ça que vous vous éloignez de lui. C'est la seule raison. C'est une incrédulité de votre part. Vous croyez quelque chose de faux envers Dieu. Parce que quand votre cœur est rempli de foi, qu'il est de sa grâce, de sa bonté, de sa gloire, de sa sagesse, de ses soins, vous n'avez qu'une envie, c'est de rester proche de lui. Mais Satan veut à tout moment nous faire oublier que le Seigneur est notre berger, je ne manquerai de rien. Il me mène vers des verts pâturages. Il me fait reposer dans ces verts pâturages. Il me mène vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il dresse une table pour moi devant mes ennemis. Il roint ma tête de l'huile. Certainement, tous les jours de ma vie, la grâce et le bonheur me poursuivront, m'accompagneront, dit le psalmiste. Ou bien, tous les sentiers de l'Éternel, toutes les manières d'agir de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. Et Satan ne veut pas que vous croyiez ça. Ou bien, écoutez, moi, maison d'Israël, dit Dieu, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge depuis votre origine, et c'est vrai pour vous aussi, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Rentrez en vous-même. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc, il est très important que nous arrivions à détecter que nous sommes éloignés de Dieu parce que nous avons trouvé de l'injustice en lui. Toujours. Un défaut quelque part. Une frustration avec Dieu et ses manières. Mais que nous avions complètement tort, parce qu'il n'y en avait rien. Je me souviens de la première fois où ce verset en Jérémie 2 m'a complètement bouleversé. J'étais dans ma troisième année de l'université, j'étais nouveau chrétien, et j'étais dans une période de déclin spirituel, d'éloignement, je ne savais pas pourquoi. Je ne retrouvais pas cette proximité à Dieu. Ça n'allait pas entre moi et le Seigneur. Et un jour, dans ma lecture, j'ai lu Jérémie 2. Et quand j'ai lu ces paroles, « Quel défaut vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi ?» C'était comme une flèche. J'ai réalisé que depuis des mois, j'avais cette attitude envers Dieu. J'oublie pourquoi. Mais qu'il était fautif quelque part vis-à-vis de quelque chose dans ma vie. Quelle folie de ma part au sujet de celui qui dit je suis toujours le même jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Pourquoi pars-tu? Ensuite, il y a, troisièmement, une question que non pas Dieu vous pose, mais que vous auriez dû vous poser. Et cela, nous trouvons dans les versets 6 à 8. Et je dois vous expliquer que maintenant, Dieu parle à Israël, non pas par rapport à sa traversée du désert, quand ça allait bien, mais dans sa période dans le pays promis,
où ça, il commence déjà à être loin et aller après d'autres dieux. Parce qu'apparemment, il y a des choses dures qui se sont arrivées. Et Israël, il semble que Dieu n'est pas là. Il semble que sa présence n'est pas là. Et donc Israël va chercher du secours ailleurs, dans le dieu de Baal, dans le secours d'Égypte ou Assyrie. Et Dieu va leur dire, vous auriez dû dans une situation comme ça, quand ça va mal, il semble que Dieu n'est pas là, il y a une chose à faire, une chose à ne pas faire. Et il explique. Donc nous lisons. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduit dans le désert, dans une terre de steppe et de fosse, dans une terre de sécheresse et d'ombre de mort, dans une terre par où personne ne passe, où il n'habite aucun être humain. Vous aurez dû le dire, vous, lorsqu'il semblait que Dieu n'agissait pas pour vous. Vous aurez dû le dire, attendez, attendez juste un moment. Où est l'Éternel? Parce que, pour les Israélites, il nous a fait un miracle pendant 40 ans. Il nous a fait traverser un pays où personne ne peut habiter tellement. C'est un endroit inhabitable et hostile et sauvage. Et pourtant, ce Dieu nous a portés dans sa main à travers ce désert. Et est-ce que je ne peux pas penser qu'il n'est pas là maintenant? Donc à moi de dire, où es-tu? Je te cherche. Où es-tu? C'est ça la réponse. Parfois nous sommes éprouvés, Dieu nous fait passer un test. N'est-ce pas? Mais il n'y a rien de plus commun, chers amis, que pour les hommes, que de conclure tout de suite, lorsque les choses sont difficiles, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas fidèle, et donc moi je vais chercher du secours ailleurs. Et c'est ce qu'on voit dans la société française. Pas une seule fois de dire où est ce Dieu de l'Évangile. Mais ils vont aller tout de suite lorsqu'ils sont malades ou mal chez les voyants, chez les guérisseurs, chez des croyances de nouvel âge, vers la sophrologie, vers n'importe quoi, sauf le vrai Dieu qui les a faits et le vrai Sauveur qui sauve. C'est vraiment fou, on crie, dit Job, contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire les chants d'allégresse pendant la nuit ?» Donc je vous pose la question, est-ce que vous avez jamais répondu à votre mal et à une apparente absence de Dieu en liant votre présent difficile au passé ? Quand Dieu a agi pour vous, vous a mené à travers le désert. Et vous, vous savez que le Dieu d'hier est le Dieu de ce moment-là. Et il est là. Il faut simplement le chercher. Où es-tu? Où est l'Éternel? Le dernier point, c'est que nous avons besoin de voir l'énormité et la folie dont nous sommes coupables lorsque nous nous éloignons de Dieu. C'est important de nous souvenir de comment nous avons été avec Dieu une fois. C'est important de nous de réaliser que Dieu n'a aucun défaut, il n'a pas été injuste. C'est important de dire « Où es-tu au moment où ça va mal ?» et ainsi de le trouver. Mais c'est important aussi pour nous, si on va revenir et pas rester loin, c'est important de voir la folie incroyable l'indignité, l'énormité du fait de s'éloigner de ce Dieu-là, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est seulement quand vous avez ce choc de voir que le défaut n'est pas chez Dieu, mais le défaut est chez celui qui est tellement insensé qu'il peut s'éloigner du Dieu vivant pour chercher le secours ailleurs. Et c'est ça qu'il dit dans ces versets 9 et suivants. Je vous lis, et donc c'est le dernier point, on va finir avec ça. C'est pourquoi j'entre en procès avec vous, oracle de l'Éternel, j'entre en procès avec les fils de vos fils, passez aux îles Kittim, regardez, envoyez des messagers à Kedar, observez bien, et regardez s'il y a rien de semblable. Cherchez, voici, une nation a jamais fait ce que vous faites. Y a-t-il une nation qui change, qui a changé ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des jeux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. La première chose que vous et moi, on doit comprendre lorsqu'on est loin, c'est que lorsque nous nous éloignons de Dieu et lorsque nous voulons chercher le secours ou trouver le bonheur ailleurs que dans le Dieu de bonheur, la source de vie, la source même, la seule source d'amour, lorsque nous voulons chercher ailleurs, alors nous sommes en train d'agir d'une manière complètement irrationnelle. Le péché est par nature l'acte le plus irrationnel et à contre-sens, contre tout bon sens, que l'homme puisse commettre. Et c'est même contre les traditions humaines. Jérémie est en train de dire, allez voir dans les nations, si jamais les humains, dans un pays, dans une culture, changent de Dieu, juste sur un plan humain. Et vous allez voir, ça n'arrive pas. Dans l'histoire, les gens s'identifient à leur Dieu, même si c'est des faux dieux. Même si c'est des faux dieux, on ne les quitte pas. On ne les quitte pas. Et il dit, mais vous, vous avez quitté celui qui est votre gloire pour vous attacher à des dieux d'autres peuples qui ne peuvent donner aucun secours. Maintenant, peut-être vous réfléchissez. Je sais que parfois, des gens quittent leur Dieu par force, parce qu'un autre peuple vient les obliger de croire dans une autre religion. Ça ne compte pas. Et depuis l'Évangile, il y a des gens qui quittent les faux dieux. Depuis l'Évangile, parce que le vrai Dieu vient les chercher. Mais Jérémie, Dieu parle ici en Jérémie simplement du fait que Israël, en s'éloignant de Dieu, est en train de faire une chose qui est vraiment tellement, même contre les manières d'agir des âmes, que c'est juste une folie. Je pense là où Jésus dit, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Je parle au nom du Père, et c'est pour ça que vous ne croyez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le croirez. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est assez incroyable. Que le péché fait que les gens sont prêts à aller vers n'importe quoi, ou croire n'importe quoi, mais ils peuvent très facilement quitter la vérité, ou ne pas écouter la vérité. Mais Dieu va plus loin que cela. Il dit, là, à la fin, « Car mon peuple, verset 13, a doublement mal agi, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » J'ai lu un récit d'une personne d'un siècle passé qui disait que les citernes que les hommes construisaient dans les temps anciens, même si c'était en pierre, c'était terrible de boire l'eau des citernes, parce que cette eau vient de la pluie et se mélange avec la boue, il y a des bestioles dedans, et c'est terrible cette eau de citernes. Bon, peut-être il était dans le mauvais endroit, mais en tout cas,
Dieu dit que lorsque vous cherchez le secours ailleurs que dans le seul vrai Dieu et le Sauveur qu'il a envoyé. Car Dieu seul est la source d'eau vive, c'est-à-dire la source qui satisfait. Vous êtes en train de fabriquer vous-même une citerne crevassée. Vous allez avoir un peu d'eau. Toutes ces croyances vont vous donner quelque chose. Sinon, on les abandonnerait. Mais le problème, c'est que ces croyances et ces dieux, c'est faux. Et donc, c'est comme une citerne crevassée et vous allez retrouver que les besoins les plus profonds de votre être, les plus profonds, vous allez rester une personne sans paix. Sans le vrai sens de votre existence. Sans le vrai... ce changement qui vient lorsque vous rencontrez le Dieu de grâce et d'amour. Et vous vous savez élu et cherché et aimé pour toujours par ce Dieu qui s'est pendu à la croix à votre place. Là, il n'y a rien dans ce monde qui peut vous donner ce que le vrai Dieu vous donne. C'est impossible. C'est impossible. Et alors, je vous encourage à voir quelles sont vos citernes en ce moment. Quelles sont vos citernes? C'est une personne humaine en qui vous cherchez le bonheur suprême et ultime? C'est un épanouissement qui vient du travail? C'est de là que vous avez pensé que ma vie va être bonne parce que j'arrive à... C'est une pratique? Une pratique ésotérique, une méditation transcendantale, des rites ou des programmes religieux ou philosophiques ou autres, on fabrique plein de choses. Mais Dieu nous dit que la source d'eau vive qui satisfait n'est pas dans une chose ou une pratique impersonnelle, une force, un truc, une croyance, une philosophie, c'est en lui. Il est la source d'eau vive. Son amour, sa grâce, celui qui seul peut aimer le pécheur. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et Jésus dit ceci, il dit à la femme samaritaine, femme loin, qui s'est éloignée de Dieu. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il, Jésus, t'aurait donné de l'eau vive. Et quelques versets plus tard, il dit à la femme que cette eau que je te donne deviendra en toi une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Pas crevassée, pas fuyant, mais jaillissant. Et donc, vous avez ce choix. Est-ce que vous allez, tout dépend, est-ce que vous buvez à la bonne source, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Vous buvez d'une citerne crevassée? Ou bien, est-ce que vous allez à la seule source où l'homme créé par ce Dieu peut être satisfait? Et ça, c'est à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenu Rédempteur, devenu notre justice. Devenu la résurrection et la vie, devenu le pardon, la justification, devenu lumière du monde. Par lui, on n'est plus dans le citerne crevassée, on retrouve la solide assurance d'une proximité qui n'a jamais besoin de se rompre. Parce que quand je pêche, il est mon avocat. Il n'y a rien qui devrait me séparer de mon Dieu. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir quand nous étions proches de Dieu, si nous éloignons de lui, qu'il nous aide à poser la question, est-ce que je suis en train de trouver un défaut en Dieu afin de m'éloigner de lui? Est-ce que je dis où es-tu lorsque ça va mal et il semble qu'il n'est pas là? Et est-ce que je réalise l'énormité, la folie de quitter le Dieu sauveur qui se donne sur une croix pour moi pour chercher ailleurs cet amour, cette grâce et cette plénitude que seul lui peut donner? Que le Seigneur nous vienne en aide.
Je vous invite à ce qu'on prenne quelques